de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La deuxième vague COVID-19 frappe les causes. Les États-Unis ont enregistré 3000 décès dus à Corona par jour, le plus élevé depuis avril. Le secrétaire général de l'ONU a prononcé un discours à BDF invitant le monde à renforcer la solidarité. Le directeur général de l'OMS attend la leadership de l'Indonésie au G20 en 2021. L'Indonésie explore la coopération économique avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le gouvernement se concentre sur la résolution des problèmes des droits humains des groupes vulnérables, a déclaré Yasona. La Banque asiatique de développement, ou BAD, a révisé sa projection de croissance économique pour 2020 à moins 2,2%. Voici le journal complet. L'Écosse est touchée par la deuxième vague de COVID-19 après le retour de ses citoyens séjour en vacances de l'étranger. Rapporté par BBC jeudi, le directeur de la clinique nationale écossaise, Jason Leach, a expliqué que le confinement fait par l'Écosse avait réussi à éliminer la meilleure partie de la première vague de corona. Il a déclaré que l'émergence de cette nouvelle souche avait été attribuée à des personnes en vacances et à d'autres voyages à l'étranger en juillet et août. Pendant ce temps, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré que sa partie avait souligné le rôle des voyages dans la relance de l'épidémie de virus qui avait été précédemment supprimée. Les États-Unis ont enregistré pour de 3000 décès dus à l'infection par le coronavirus au COVID-19 en 24 heures. Ce chiffre est selon un décompte de l'Université Johns Hopkins. Ce chiffre est le péage quotidien le plus élevé depuis avril. Les autorités américaines ont averti qu'une augmentation du nombre de décès surviendrait après que des millions de personnes aient voyagé à travers le pays pour les vacances de Thanksgiving le mois dernier, ignorant les appels à rester à la maison pour ralentir la propagation du virus. Mercredi à 20h30 heure locale, le pays a enregistré un total de 189 188 décès dus à coronavirus, en hausse de 300 061 décès en 24 heures. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a prononcé un discours virtuel lors de la cérémonie d'ouverture du 13e forum de la démocratie de Bali à Nusa Dua, Bali, jeudi. Dans ses remarques, Guterres a souligné l'importance de la solidarité entre les pays du monde face à la pandémie de COVID-19. Il a expliqué que la pandémie révèle le fait que de nombreux pays sont dans un état fragile, reconséquant la solidarité entre les pays doit être renforcée par les pays du monde. Il a rappelé aux organisations de la société civile, aux médias et à la communauté scientifique qu'ils doivent participer à la résolution des problèmes, en particulier dans l'effort pour surmonter la pandémie. Cette année, 13e Forum de la démocratie de Bali a eu lieu virtuellement et face à face à Nusa Dua Bali pendant une journée. Pour les réunions virtuelles, au moins plus de 500 participants de 69 pays et de 4 organisations internationales participent à diverses séries d'événements. Pour les réunions en face à face, il y avait 44 représentants de 26 pays et de 3 organisations internationales. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de son allocution à l'ouverture du 13e Forum de la démocratie de Bali, ou BDF à Nusa Dua Bali, jeudi, a déclaré qu'il attendait le leadership de l'Indonésie à G20 pour la période 2022 et espère que l'Indonésie pourra renforcer la solidarité des pays de la région Asie-Pacifique. Tedros et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont prononcé un discours à l'ouverture du 13e Forum de la démocratie de Bali devant des centaines de délégués étrangers qui ont assisté à l'événement via une application de vidéoconférence et en personne à Nusa Dua Bali. À cette occasion, Tedros s'est félicité de l'événement du Forum de la démocratie de Bali et a déclaré que la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit sont des facteurs importants qui contribuent à atteindre les objectifs de développement durable, à protéger l'environnement et à réduire les inégalités. Le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes et de l'Investissement et le ministre des Entreprises Publiques, ou BUMN, explorent la coopération avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite afin de restaurer l'économie post-COVID-19. Le ministre de BUMN, Eric Thohir, dans une déclaration officielle à Jakarta, espère jeudi que la coopération de l'investissement économique pourront être réalisée avec la participation des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite au Fonds souverain pour la richesse, ou SWF. Le ministre Eric Thohir et le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, ont achevé des missions de visite de travail à Abu Dhabi et à Riyad, qui ont tous deux rencontré le prince héritier d'Abu Dhabi et le commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le ministre saoudien de l'Investissement, Khalid Al Fali, et le ministre des Finances d'Arabie Saoudite, Ibrahim Abdul Aziz Al Assaf. La visite a été effectuée pour renforcer les relations stratégiques et amicales dans le secteur de l'investissement et de l'économie, en particulier dans la période post-COVID-19. Le ministre indonésien de la Loi et des Droits de l'Homme, ou HAM, Yasona Lawli, a déclaré que le gouvernement se concentrera sur la résolution des problèmes des droits de l'homme des groupes vulnérables, qui incluent les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les peuples autochtones. Cette orientation est contenue dans la 5e période du Plan d'action national pour les droits de l'homme, ou RANHAM, compilé par le ministère indonésien de la Loi et des Droits de l'Homme, le ministère de la Planification du Développement National, ou BAPENAS, le ministère des Affaires Sociales, le ministère de l'Enseignement et le ministère des Affaires Étrangères au sein du secrétariat conjoint du RANHAM. Il l'a exprimé lors d'un discours virtuel lors de la série d'événements de la 72e journée des droits de l'homme, jeudi. Yasona a ajouté que dans le même temps, des efforts ont également été faits pour encourager les réglementations provinciales et de régions ou villes à utiliser également les paramètres des droits de l'homme. La Banque asiatique de développement, ou BAD, a révisé la projection de la croissance économique de l'Indonésie pour 2020 à moins 2,2% en raison de la situation incertaine due à la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré l'économiste de la BAD pour l'Indonésie, Emma Allen, lors de la réunion médiatique de fin d'année de la BAD en Indonésie à Jakarta, jeudi. Allen a déclaré que la reprise économique de l'Indonésie progressait lentement, en particulier en ce qui concerne les 3 facteurs de croissance, à savoir la consommation, l'investissement et le commerce. La projection prend également en compte l'évolution des indicateurs sociaux publiés par BPS. Près de 30 millions de personnes ont été affectées par le COVID-19 en termes de moyens de subsistance à travers la réduction des heures de travail, la suspension d'emploi et la perte d'emploi. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et en pour le titre, la commémoration de la journée mondiale des droits de l'homme, reconstruire en mieux défendant les droits de l'homme. Cette année, la 71e commémoration de la journée mondiale des droits de l'homme, le 10 décembre, sera enregistrée dans l'histoire, car cette année, il y a quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant, la pandémie de COVID-19. Cette année, le thème de la Journée mondiale des droits de l'homme est lié à la pandémie de COVID-19 et met l'accent sur la nécessité de mieux reconstruire en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement. L'Organisation des Nations Unies, ONU, s'efforce à atteindre des objectifs mondiaux communs en créant l'égalité des chances pour tous, en remédiant aux échecs exposés et exploités par COVID-19, et mettre en œuvre des normes relatives aux droits de l'homme pour lutter contre les inégalités, l'exclusion et la discrimination enracinée et systématique et intergénérationnelle. Le 10 décembre est l'occasion de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction du monde que nous voulons, la nécessité d'une solidarité mondiale et de notre connectivité et de notre humanité commune. Au début de la propagation de COVID-19, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait mentionné que cette pandémie avait tendance à faire ignorer les droits de l'homme. En raison de COVID, les portes des zones frontalières ont été fermées, le droit de passage a été restreint, l'octroi de l'asile a été interrompu, de sorte que COVID puisse être surmonté immédiatement. À plusieurs égards, l'anticipation de la propagation de COVID-19 a rendu l'application des droits de l'homme innombrable. La commémoration de la journée des droits de l'homme le 10 décembre avec le thème « Reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme » montre l'espoir que lorsque le processus de recherche et d'achèvement du vaccin de COVID-19 aura progressé vers un point positif, on espère que l'application des droits de l'homme sera meilleure, pourra mieux se développer et veiller ce que les droits de l'homme soient respectés pendant la pandémie dans le cadre des efforts de relèvement. Par exemple, il est nécessaire de créer des normes relatives aux droits de l'homme pour surmonter les inégalités, l'exclusion et la discrimination qui se sont produites pendant le COVID-19. Chaque personne dans le monde a une chance égale d'obtenir ce droit. Par exemple, en mettant fin à toutes les formes de discrimination dans le processus de traitement de COVID, il faut des encouragements et des contrats sociaux pour promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels dans les nouvelles habitudes de vie ou nouvelles normalités et d'autres étapes. Ce qui a été décidé comme étant objectif principal est le thème de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme et véritablement une note et un reflet de chaque pays pendant le voyage pour escorter la pandémie. Il est temps pour chaque pays de toucher sa conscience pour corriger sa gestion de COVID jusqu'à présent pour une meilleure application des droits humains. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku cakuyong shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers amis. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 11 décembre. Le 11 décembre 1946, l'UNICEF est fondé. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a été fondé le 11 décembre 1946. La création du Fonds des Nations Unies pour l'enfance visait à l'origine à collecter des fonds pour aider les enfants européens affamés et affectés par la maladie après la Seconde Guerre mondiale. L'organisation leur a également fourni de la nourriture, des vêtements et des médicaments. Aujourd'hui, l'UNICEF étend ses activités pour éliminer la pauvreté, la violence, la maladie et la discrimination contre les enfants dans le monde. L'UNICEF mène ses activités dans plus de 150 pays à travers le monde et est basé à New York. Le 11 décembre 2008, l'ancien ministre tunisien des Affaires étrangères Ali Alatas est décédé. Ali Alatas est né à Jakarta le 4 novembre 1932. C'est un diplomate indonésien qui a été ministre des Affaires étrangères de 1980 1988 à 1998, deux mandats complets sous les présidents Suharto et B.J. Habibie. Ali Alatas est décédé le 11 décembre 2008 à Singapour. Ali Alatas a été envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Myanmar, envoyé spécial du président de la République d'Indonésie pour les questions relatives au Moyen-Orient et président du Conseil consultatif présidentiel. Le 11 décembre 1941, la déclaration de guerre de l'Italie aux États-Unis. Le 11 décembre 1941, l'Italie déclara la guerre aux États-Unis en réponse à une déclaration de guerre contre l'Empire japonais suite à l'attaque de Pearl Harbor 4 jours plus tôt. L'Allemagne a également déclaré la guerre aux États-Unis le même jour. Les États-Unis ont immédiatement répondu en déclarant la guerre à l'Allemagne et à l'Italie, en citant les États-Unis à combattre les deux fronts principaux du Pacifique et de l'océan Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Kita terus maju.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sajita, bonsoir. Voici Mon Indonésie et on pour le titre. Le président invite les gens à aimer les produits nationaux. Le président Jokowi a déclaré que l'amour de 270 millions d'Indonésiens qui sont fiers des produits fabriqués en Indonésie en achetant et en utilisant ces produits contribuera à réduire le déficit du compte courant et la clé du développement rapide de l'industrie créative nationale. C'est ce qu'a dit le président Jokowi Dodo lors d'un discours virtuel lors de l'événement du don du prix fier d'être fabriqué en Indonésie en 2020 dimanche. Selon le président Jokowi, l'amour des produits indonésiens aura un impact meilleur sur l'économie indonésienne. En effet, une longue chaîne d'approvisionnement obligera les industries dérivées, en particulier le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, ou MPME. L'impact obligera davantage de nouveaux emplois et contribuera à l'accélération de la reprise économique nationale. Le président a ajouté que le mouvement Être fier des produits indonésiens doit être accompagné d'un mouvement visant à améliorer la qualité et la compétitivité. Les deux mouvements doivent être faits conjointement à travers le développement d'un écosystème et un sentiment de confiance en soi en tant que grande nation qui aime son pays. Au total, 14 prix ont été décernés aux lauréats dans différentes catégories, entre autres l'animation, la mode, le cinéma et l'artisanat. 3 prix spéciaux ont également été décernés, à savoir aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises des régions les plus éloignées. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Wisnu Tama, a déclaré que le prix fier d'être fabriqué en Indonésie 2020 était une forme de soutien du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative et de 14 ministères et institutions associées au MPME, au tourisme et à l'économie créative en Indonésie. Cet événement est organisé pour rendre hommage aux acteurs de l'économie créative et aux MPME dans divers secteurs de l'Indonésie qui restent carrément dans leur créativité et continuent d'innover dans le développement des produits au milieu de la pandémie de COVID-19. Il espère que ce prix pourra fournir des informations aux autres joueurs de MPME pour qu'ils restent enthousiastes et n'abandonnent jamais leur travail. Serge Ritok, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Yeah.
Chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel. Et cette fois, nous allons présenter la cascade de Palano. Dans l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui, nous vous présenterons l'une des attractions naturelles de l'ouest de Sumatra, précisément dans le village de Laki Tengah, district de Lengayang, dans la région de Pesisir Selatan, et cette attraction touristique s'appelle la Cascade de Palano. Elle présente la beauté de la nature et aussi la beauté des orchidées blanches qui poussent autour de la cascade. La cascade de Palano est accessible par transport terrestre depuis le centre-ville de Adang, la capitale de l'ouest de Sumatra. Et pour y entrer, vous devez payer un billet d'entrée, 5 000 de roupies par personne. Si vous venez le matin, vous attendrez le cri de centaines de gibbons. Dans cette zone touristique, il y a 7 sources d'eau d'une beauté variée. La première cascade s'appelle la cascade de Palano, atteignant 40 mètres de haut. Il y a une pierre qui ressemble à une selle de vélo que la communauté locale appelle Palano. La deuxième cascade s'appelle la cascade de Sampik. Sampik vient de la langue locale qui signifie étroite. Il y a une cascade de 15 mètres de haut. Il y a aussi la cascade de Sumu-Sumu. Ce nom vient également de la langue locale qui signifie sumur-sumur. Comme son nom l'indique, il y a des rochers comme un puits rempli des eaux. Elle est belle parce que les eaux proviennent d'une cascade d'un à 2 mètres de haut. La quatrième est la cascade de Barangin de 25 mètres de haut. En outre, il existe également la cascade de Golek-Golek à l'emplacement. Il y a une étendue de roches d'un diamètre environ 50 mètres. Il y a aussi la cascade de Cibarua. Le dernier est une cascade de 15 mètres de haut. Si vous vous rendrez à la cascade de Palano, vous devez bien sûr profiter de la fraîcheur et de la clarté de la cascade et vous pouvez essayer les 7 points de la cascade. N'oubliez pas de voir également la beauté des plantes d'orchidées blanches là-bas. Aujourd'hui, il y a des vélos suspendus et des escalades en cascade. L'attraction touristique de la cascade de Palano est équipée de divers équipements tels que des salles de bain, des parkings, des salles de prière et des restaurants. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Sepertinya ku padamu. Sembilan puluh sembilan persen jatuh cinta. Ku menunggu tanda-tanda cinta itu darimu agar ku yakin 100% padamu. Maaf kau terlalu lama menunggu. Bukan ku sengaja ingin menggantung, tapi ada sesuatu di dada yang gak bisa terucap dengan mudah. Cinta kurang 1%.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à tous, je vais vous présenter l'Indonésie en couleur ce soir, intitulé « Un outil pour détecter la présence de poissons » par l'ITS, l'Institut de la technologie 10 novembre. Sur Jamie, l'Indonésie est un pays maritime où les deux tiers de son territoire sont des océans. La richesse marine de l'Indonésie est très abondante. Diverses innovations ont été apportées pour faciliter l'utilisation des ressources naturelles marines. L'un d'eux est un outil appelé Smart Fish Detection Technology, ou bien SMAF-DT. Cette innovation des étudiants de l'Institut de la technologie 10 novembre est capable de détecter les zones avec beaucoup de poissons, afin que les pêcheurs puissent étendre des filets dans la zone et obtenir un maximum de résultats. Chers auditeurs, la suite, les deux étudiants sont Rafli Zakarullah et Figo Fergianto Dahlan. Tous les deux ont l'idée de leurs observations sur l'habitude des pêcheurs de pêcher quotidiennement dans le détroit de Madura. Ils constatent que les prises de poissons des pêcheurs de Bangkalan sont relativement faibles par rapport aux pêcheurs d'autres régions, ce qui affecte leur économie. Rafli a expliqué que cela s'est produit en raison de la petite zone de couverture en eau. De plus, la méthode de pêche utilise toujours l'ancienne méthode, en étalant des filets au milieu de la mer en fonction des instants, des souvenirs et des estimations des pêcheurs concernant leur passé de pêche. Afin de surmonter ce problème, l'équipe a créé une nouvelle innovation sous la forme d'un outil qui peut aider les pêcheurs à augmenter leur prise. Cet outil, appelé SMAF DT, est installé au fond du bateau afin de pouvoir détecter la présence de poissons dans les eaux à l'aide des capteurs. Chers auditeurs, la suite, le SMAF DT utilise des ondes sonores et des capteurs à ultrasonde pour détecter les mouvements des poissons dans la mer. Puis, équipé d'un voyant d'alarme sur le bateau comme indicateur. Lorsque le bateau commence à marcher vers la mer, les capteurs commencent à détecter le mouvement des poissons dans l'eau. Le SMAF DT est également équipé d'une technologie de suivi de position via GPS afin de pouvoir surveiller les mouvements des navires et enregistrer les positions historiques des arrestations précédentes. Cet appareil, qui peut être connecté à un smartphone, peut être utilisé par les personnes à domicile pour surveiller la position du bateau directement via l'application SMAF DT. De plus, l'application SMAF DT est également équipée du menu principal About Fish. Cette fonction est utile pour accroître les connaissances des pêcheurs sur les types de poissons et leur contenu. Serge Littar, c'est tout. L'Indonésie en couleur pour ce soir.
Kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah. Ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu. Thank you. aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri, hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson des Karungut modernes de la région du Kalimantan central intitulée Turus Janji. Chers amis, cette chanson raconte la promesse d'un couple d'amoureux qui navigueront ensemble dans un lien de mariage. La chanson a été réarrangée avec le genre de musique pop sans perdre ses éléments traditionnels, tout en incorporant un instrument de musique traditionnelle du Kalimantan central appelé la harpe. Ceci est fait pour que la musique sonne plus légère et soit facilement comprise par l'auditeur. Karungut lui-même est un art traditionnel du Kalimantan central en Indonésie, sous la forme de littérature orale ou également appelée pantun antoné. Le chant Karungut raconte les poèmes de la vertu en concoctant divers légendes, avertissements, réprimandes et avertissements sur la vie quotidienne. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Turus Janji, chantée par Ujai Mura et Yeti. Bonne écoute. chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.